Bien, merci Jean-Marie Caillé de cette invitation et je me trouve à Bordeaux dans une terre d'accueil avec des amis très chers et donc c'est plus agréable d'être dans un climat de confiance que comme ça dans une terra incognita. Le président Bello, le professeur Erny, Doyen Morlaz. Donc, je vais essayer très librement, parce qu'on n'est pas là pour manier des concepts de langue de bois. Je vais essayer de, au fond, de réfléchir à haute voix sur le présent et peut-être le futur de ce rapport au corps de la médecine. Et, au fond, au nom de quelle légitimité? Parce que chacun d'entre vous, chaque médecin, à sa vision de la médecine. Au fond, pourquoi aurais-je une vision aussi différente, si originale? Pas tellement le cas, simplement, il se trouve que depuis 5 ans, mon double métier, ma double fonction de praticien hospitalier et en même temps de président du comité consultatif national d'éthique m'oblige, non pas simplement à réfléchir, mais d'une part à mettre en relation permanente mon activité et la réflexion, non pas du tout sur le plan éthique. Quand j'entends des médecins qui se revêtent d'éthique quand ils font de la médecine, ça m'insupporte de niaiserie. Le problème, c'est pas de faire la médecine de façon éthique, chaque médecin l'a fait le ce qu'il pense être pour le mieux, mais d'être obligé de réfléchir de façon conceptuelle à ce que l'on fait et avoir dans le cerveau gauche la pratique, dans le cerveau droit cette espèce d'observation, et une observation qui doit être mise sur le papier et qui est sans cesse projetée sous le regard des autres. Et je suis très frappé, d'ailleurs, comme je pense tous ceux qui ont exercé des responsabilités, je pense que le président Bello a eu ce même sentiment, c'est qu'on apprend énormément des autres disciplines, en particulier des sciences humaines, des philosophes, et je trouve que le plus grand privilège pour un médecin, pour un praticien, c'est l'échange avec les autres disciplines. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu, non pas l'état de ma réflexion, mais quelques réflexions avec lesquelles éventuellement on pourra échanger. Alors, au départ, la médecine, il y a toujours une sorte d'incantation, elle est destinée à soulager, guérir la souffrance, faire un diagnostic. Bon, ça fait partie de l'évidence. Et la question, c'est, est-ce que cette évidence incantatoire demeure? Alors, il ne faut pas qu'il y ait un malentendu d'emblée. Je ne vais pas fustiger la médecine sur laquelle je m'appuie. Il est évident que depuis 30 ou 35 ans, comme tous les praticiens, j'ai bénéficié des acquis fabuleux de la radiologie, de la chirurgie cœlioscopique, des biologies de PCR virales, de biologie immunitaire plus fascinantes les unes que les autres. Donc, mon discours ne va pas être une sorte de retour à une médecine pré-socratique ou pré-pastorienne ou pré-jacobienne et qui serait ou pré-génomique et qui serait une sorte de nostalgie de la relation médecin-malade décrite par tel ou tel grand écrivain. Donc je vais essayer de vous dire, au fond, ce que j'éprouve dans ma chair, et sans démagogie ni forfanterie, mais après toutes ces précautions d'usage, essayer d'analyser quelques questions. Alors les questions, 7 ou 8 que je vais d'abord poser, puis on va voir comment on peut y réfléchir, y répondre. La première, c'est est-ce que notre médecine contemporaine, est-ce qu'elle a encore un sens? Autrement que ce sens de performance et d'efficacité. On est frappé de voir que dans l'imaginaire collectif, le mot progrès scientifique est de l'ordre de l'évidence, personne ne le discute. La médecine, elle a ce mot réservé, la médecine, elle fait des miracles. Le progrès scientifique, on peut l'interroger, mais alors les miracles de la médecine, ils sont de l'ordre de l'évidence, et quand tout le monde en tant quelqu'un qui a bénéficié d'une naissance assistée, d'une chirurgie extraordinairement performante, la médecine fait des miracles, et comme si ce mot atténuait ou interrompait toute réflexion. Et est-ce que, la question peut être centrale, est-ce que le malaise, parce que je perçois un malaise chez les étudiants, est-ce que le malaise des médecins n'est-il pas dans ce sentiment d'une médecine qui est instrumentalisée par la technique? Alors tout le monde utilise ce mot instrumentalisé, mais je suis tout de même frappé, on pourra voir quelques exemples, que voir que la technique n'est plus à la disposition du médecin, fonction de son discernement, c'est la technique qui va convoquer le médecin. Et donc ce transfert, faisant que le médecin devient de plus en plus un technicien tout à fait compétent et en bout de chaîne, est peut-être plus inquiétant ou angoissant que cela. Et que, en paradoxe, c'est que la médicalisation des comportements que chaque revue encourage pour vivre vieux, pour maigrir, pour grossir, pour aller faire du sport, pour rester en bonne santé mentale, pour ne pas avoir d'Alzheimer, etc., on voit très bien que la médecine est sommée d'intervenir à partir de sa compétence technique. On va la sommer d'intervenir dans un champ sur lequel elle est très très modestement efficace, donc avec un armement inadapté. Et on voit très bien ce double discours qui est peut-être encore mal décodé, et peut-être les médecins ont-ils une responsabilité dans ce sentiment d'être convoqué par tel ou tel média et de pouvoir bavarder, quelquefois jacasser, sur des domaines sur lesquels ils ne connaissent pas plus que n'importe quel être humain. Et que ce transfert technologique massif finit peut-être par privilégier uniquement des données objectives, mesurables. J'ai trouvé une phrase d'Heidegger que je vous donnerai tout à l'heure en conclusion, mais qui me paraît tout à fait adaptée. Moi, je ne suis pas du tout à mettre Heidegger, je n'ai pas lu Heidegger, je ne mets pas Heidegger comme ça par snobisme, mais vous verrez que cette phrase me paraît assez adaptée à la médecine contemporaine. Au fond, si ça ne rentre pas dans les données objectives parfaitement cerclables, quantifiables, alors à ce moment-là, le psychologue, le psychiatre est appelé au secours. Parfois même les soins palliatifs en disant « la médecine maintenant arrête » et donc on repousse le corps aux marches de la médecine. Et on voit très bien que cette technologisation massive, c'est un lieu commun, c'est rien d'original, finit peut-être par être aussi un encouragement au dépistage de tout et n'importe quoi. Et c'est là peut-être où mon expérience au comité m'a beaucoup interpellé, comme on dit, c'est-à-dire que on est sans cesse sollicité par tel ministère de la Santé, par telle équipe, dépister le gène, dépistage, et ce dépistage comme si la connaissance suffisait sans qu'on s'interroge, ou plutôt quand on s'interroge après tardivement, on a dépisté, alors qu'est-ce qu'on va faire de ce dépistage? Ça, c'est des questions qu'on va reporter beaucoup trop tard, au moment où justement la société est confrontée à ce dépistage. Alors aussi, cette technologie aboutit à ce qui est des arguments tout à fait clair, paramétré, et la responsabilité juridique s'engage, même si je crois que les juges ne sont pas toujours, et même très rarement derrière les médecins, il y a un fantasme sur le fait. Je suis très frappé de voir d'ailleurs comment les étudiants sont formés dans les universités avec la crainte du juge. C'est dramatique, parce que si les professeurs de médecine deviennent les juristes, avec cette angoisse, si vous faites ça, vous allez vous retrouver devant les tribunaux. Et il m'arrive de dire cette phrase. Donc, ça montre comment moi-même, je me suis fait intoxiquer par le discours dominant. Mais la médecine, quelquefois triomphante, finit par intoxiquer eux-mêmes les juges qui disent, on vous prend au mot, vous dites que telle thérapeutique est merveilleuse, par conséquent, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas utilisée? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un PET scan chez cette femme qui vous reproche de ne pas avoir dépisté un cancer à une phase plus précoce? Et puis alors, au fond, cette technologie fait qu'il y a la réparation sans fin. Il suffit que l'on prononce le mot de cellule souche, de thérapie cellulaire, pour qu'immédiatement, du haut de cette suffisance de bricolage de l'humain, où on va prendre des cellules et on va réparer les neurones, taisez-vous, la société, je suis celui qui répare le cerveau, je suis celui qui répare le foie, je suis celui qui répare le cœur. Et au nom de cette au fond en phase, simplement liées au projet, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez menaçant pour la médecine elle-même. Donc, vous disiez, Jean-Marie Caillé, que c'est peut-être un changement, peut-être pas non plus aller jusque-là, mais peut-être cette médecine technologique fait du médecin un prestataire de service, donc un producteur, donc un rapport production en consommation. Et je trouve que la question la plus angoissante que nous avons en 2004, parce que c'est celle qui va nous mettre probablement tous au tapis et d'accord sur la nécessité de changer de comportement, c'est que la qualité des soins est actuellement diamétralement opposée à l'augmentation des coûts. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce serait parallèle, c'est-à-dire que plus on dépense d'argent, plus les gens sont bien soignés. On s'aperçoit que paradoxalement, il y a actuellement, on est peut-être à l'ébauche d'un croisement, et que l'écart entre le service médical rendu par la médecine, en tout cas celle qu'elle croit rendre, et le service médical perçu par la société, non pas collectivement, parce que je crois que les Français ont le sentiment d'être dans l'ensemble bien soignés, d'avoir accès facilement à un hôpital universitaire, avoir accès, personne ne peut dire en France qu'il n'a pas accès à la thérapeutique la plus sophistiquée. Aucun Français ne peut se reprocher. Et en même temps, on s'aperçoit que, au fond, le coût absolument terrifiant, et que je dise le mot terrifiant, ce n'est pas un mot excessif, des thérapeutiques contemporaines, les anticorps, le coût des investigations, des IRM, des PET scans, est tel qu'on peut se poser la question de l'aspiration vers quelques pathologies spectaculaires, privilégiées par la médecine, au détriment peut-être un jour de l'accès aux soins. Et que peut-être que la performance diagnostique et thérapeutique, elle a besoin aussi d'être interrogée dans sa confiscation éventuelle des ressources, et je trouve que la médecine ne s'interroge pas suffisamment sur ce point. Donc, le problème, ce n'est pas de faire un procès de la médecine, je suis à l'intérieur de cette médecine, je suis comme les autres, mais je voudrais simplement m'interroger. Alors, premièrement, la médecine contemporaine, à peu près 45 minutes, je vous propose, 40 minutes, pour, au bout de 40 minutes, la tension baisse, donc la médecine contemporaine a-t-elle encore un sens ? Je suis quand même frappé de voir que, bon, m'étant pas mal intéressé, comme doyen Morlat, à la pathologie VIH, de voir comment, au fil des années, ce sont les marqueurs qui ont un sens. Un malade arrivera avec tant de CD4, on dira « vous allez bien, la charge virale est négative, écoutez, vous allez très bien, bon, je vous renouvelle votre ordonnance, repartez chez vous, tout va très bien », et le malade peut être en perdition la plus totale. Pour lui, ces chiffres sont signifiants, mais ce sont les chiffres que la médecine interprète. Et l'interprétation, au fond, le malade se soumet à l'interprétation de la médecine, même si dans son corps, il a envie d'éprouver autre chose. Et en même temps, le contraire, c'est-à-dire que quelqu'un a des marqueurs qui ne sont pas très bons, et à ce moment-là, le médecin apitoyé se dit « oh là là, ça ne va pas très bien », et qui va commencer à fouiller de façon presque policière le malade sur les symptômes. Quelquefois, il n'en a aucun, et qui se dit un petit peu agressé par la médecine qui voudrait savoir pourquoi les choses ne vont pas très bien. Au fond, on est dans une médecine des preuves. Il faut à tout prix savoir si on va bien ou si on va mal. Et peut-être que la question de la médecine des preuves n'est pas suffisamment enseignée dans les facultés de médecine. Non pas, elle est enseignée comme l'évidence Bayesian de médecine, c'est-à-dire qu'il faut accumuler des preuves que le diagnostic et la thérapeutique sont fondées sur des preuves. La question, ce n'est pas tellement cette question qui paraît importante, c'est est-ce que, au fond, il faut, la société dit, je voudrais avoir des preuves que je vais bien ou des preuves que je vais mal. Et donc, la médecin est sollicitée maintenant comme un expert à qui on dit « apportez-moi la preuve que je vais bien » et non plus comme un soignant qui va prendre la personne dans son ensemble. Et peut-être j'appartiens à une des dernières spécialités, mais j'aurais peut-être voulu même qu'elle soit encore plus audacieuse dans ce domaine, cette capacité à ne pas exiger sans cesse la preuve négative, radiologique, biologique d'un bon état de santé ou d'un mauvais état de santé. Et on voit très bien qu'il y a de moins en moins de vie possible sur viatique médicale. Comme si la médecine, s'était posé sur l'humanité en disant « passez par mes fourches caudines pour dire si vous allez bien ». Et ainsi, on va voir des dosages réitérés de cholestérol, de PSA, le scanner au moindre lombago, la moindre migraine, l'IRM, les radios du cou. L'humanité a tous, nous avons 100% d'arthrose cervicale et on voit très bien que pourtant, dès qu'on a un peu mal dans le cou parce qu'on a tourné la tête ou mauvaise position, la radio va montrer l'arthrose cervicale. Donc on est dans une espèce de pseudo-objectivation dérisoire qui va focaliser et qui va donner aux symptômes une pseudo-preuve scientifique ce qu'elle n'est pas. Et je pense que l'assimilation du check-up du corps, les bilans plus inutiles les uns que les autres, assimilant le corps à une automobile, qui sont quand même assez effrayants, car depuis 1948, la Sécurité sociale fait faire tous les 5 ans à des millions de Français des check-up, dont si peu ont tiré parti, mais jamais il y a eu une seule étude depuis 50 ans permettant de savoir est-ce que ces millions d'euros ont servi à quelque chose, car ces millions d'euros, ils n'ont pas été mis dans la recherche ou dans d'autres secteurs importants. Au fond, ce que la personne demande, tout être humain, malade ou en bonne santé, c'est de rencontrer un œil, une oreille, et que, comme dans toute l'humanité, c'est-à-dire que l'homme soit réunifié, soit réintériorisé et pas extériorisé sur tel ou tel paramètre, fût-il génétique, moléculaire. Pas qu'il y ait de malentendu, je ne dis pas que ces paramètres sont inutiles, je pense que leur discernement de leur choix est de plus en plus, me pose de plus en plus problème. Il n'y a pas de... Et je pense que tous les vieux médecins sont dans la même situation. Quand ils font la visite, ils ne prescrivent pas les examens, mais ils passent leur temps à retirer des examens. Et je suis frappé de voir que celui qui propose les examens l'emporte toujours, parce que les étudiants me disent, quand je refuse une échographie transœsophagienne en disant « il n'y a pas d'endocardite », ils me disent « vous, à la rigueur, vous êtes vieux, vous pouvez savoir. Moi, je suis jeune, je ne sais pas et j'ai besoin. » Et la grande question qui peut se poser, c'est que un métier de médecin, c'est toujours fondé sur... du concret. Nous sommes des potiers, nous avons touché, nous avons entendu, nous avons souffert en entendant, et nous avons pétri des corps pendant des dizaines d'années. Et donc, il est vrai que quand on est vieux, on a un discernement qui est fondé, comme n'importe quel artisan, sur ce rapport au corps. Alors, à partir du moment où on manie uniquement des chiffres ou des images, l'expérience ne peut pas se constituer. Pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait un rapport entre le réel et les paramètres. Et je trouve que cette incapacité à partir du corps, parce que le corps, il est absent, il est au... D'ailleurs, il n'y a plus effectivement de sémiologie. Dans la rue, on ne voit plus de gens malades. Par conséquent, le corps a perdu son langage de maladie. Et pourtant, le corps est encore plus important, même si le corps est parfaitement normal. Ce lien entre ce que dit la médecine du corps et ce corps, je plaide dans un, j'imagine avec des gens convaincus, mais en tout cas avec les étudiants, je n'arrive malheureusement pas trop à les convaincre. Et quand la technique arrive à tellement instrumentaliser le corps qu'on arrive à ce que le malade soit convoqué, il m'est arrivé des exemples presque caricaturaux demandant à un interne, mais pourquoi il avait demandé cet IRM du cœur, qui est un examen qui va effectivement avoir une amplitude dans les prochaines années. La radiologie du cœur va être une nouvelle aventure de la médecine. Il y aura des spécialistes de la radiologie du cœur, parce que le cœur est resté absent de la radiologie jusqu'en 2004. Et maintenant, il y a toute une nouvelle pente de la médecine. Et donc, l'interne demande maintenant l'IRM du cœur, parce qu'il a entendu dans New England Journal of Medicine qu'il y avait telle ou telle pathologie. Et quand je lui demande, mais quel rapport y a-t-il je ne le reproche pas que vous ayez demandé une IRM du cœur, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer très simplement pourquoi vous avez demandé une IRM du cœur? Et à ce moment-là, il y a une espèce de gigantesque point d'interrogation qui apparaît au-dessus de son crâne. Et je vois sur la pancarte que l'IRM du cœur, 10h10, 16 mars. Et je lui dis, vous êtes effectivement arrivé au sommet de l'absurde, c'est l'IRM qui a convoqué le malade, et non même plus vous qui avez demandé cet IRM. Donc, cette vision de la radio ou de la biologie qui va elle-même, effectivement, à partir d'un taux de complément ou d'un anticorps, qui va demander pour son propre intérêt et qui va évacuer le médecin de la naissance même de cette demande, me paraît un peu préoccupant. Alors, ce transfert technologique massif, il est intéressant parce qu'il va être approprié par les malades. Puisque, à partir du moment où le corps n'a plus d'intériorité et que le corps va ne dépendre que de la médecine, on ne parlera plus de son foie, mais vous avez tous l'expérience, en tout cas les médecins qui sont présents ici, les gens disent « mon écho, mon PSA, mon cholestérol, ma mammo », on ne dit plus « mon sein ». Et quand une femme est interrogée sur éventuellement est-ce qu'on peut lui examiner les seins parce qu'elle a 50 ans et que lors d'un examen, ça fait partie d'un examen rigoureux, la femme dit tout de suite « non, non, arrêtez ». Ma mammo a été faite il y a 6 mois, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit paradoxalement que les cancers du sein restent stables, parce que les cancers du sein ont quelquefois la malencontreuse idée de survenir entre 2 mammographies. Et donc, cette façon d'écarter, au fond, la main du médecin du corps du malade, est presque il y a une situation très ambiguë, parce qu'en même temps, on n'a pas tellement envie d'avoir un toucher rectal par un médecin, d'avoir les seins touchés, d'avoir éventuellement un toucher vaginal, parce qu'on se dit, au nom de quoi, c'est pas très scientifique. Et puis en même temps, on se dit, mais oui, mais si le médecin m'a pas examiné, c'est pas très sérieux. Donc le médecin peut-être a la perception de son inutilité, de sa main, de son œil et de son oreille, et je pense que c'est assez grave. Et donc, les radios finissent par occuper le champ de la réalité, et... Alors, on a les femmes qui parlent de leur nodule thyroïdien. Mais parce que, puisque maintenant on fait des échographies carotidiennes au moindre vertige, ce qui n'a absolument qu'un sens dans 1 à 2 % des cas, et comme tout le monde a son échographie carotidienne, parce que c'est un examen tellement simple, c'est tellement ennuyeux d'écouter quelqu'un qui a un petit étourdissement, c'est tellement difficile, parce que c'est exprimé de façon ambiguë, l'échographie donne l'impression du réel. Et ce réel va déboucher sur, tiens, une échographie, un nodule thyroïdien. Et à ce moment-là, le nodule thyroïdien s'installe au centre du corps, et on va dire Tchernobyl. Et on est dans une espèce de discours délirant, et qui va commencer à s'installer dans la société. Alors ce sera l'échographie qui va montrer un kyste biliaire, qui va montrer... on va avoir sur... un scanner, parce que maintenant les scanners remplacent la coloscopie, on va avoir des diverticules. Et diverticules, les médecins disent diverticules, mais c'est peut-être un cancer débutant. Et avant de rentrer dans ce contre-discours, on voit qu'il y a l'appropriation des paramètres techniques. Au fond, il y a une appropriation de ce que dit la médecine du corps par le malade, qui fait que ce qui me paraît peut-être irréversible, c'est que le corps se tait. Donc la parole, il y a une espèce de mutité du corps, mutité de la parole, parce que la seule confiance qui se fait, c'est quand les appareils scintillent et commencent à donner des résultats tangibles. Alors, quand il n'y a pas des résultats absolument effrayants, il m'est arrivé de voir un Corse, 82 ans, qui va voir, je crois que c'est à Bordeaux, il va voir un radiologue de Bordeaux, et ce radiologue de Bordeaux, un radiologue en ville, c'est un ami d'enfance. Et il lui dit « Ah, tu as un appareil remarquable. Écoute, j'ai 82 ans, j'ai jamais eu de scanner. Tu ne peux pas me faire un scanner ?» Et effectivement, le radiologue amicalement lui dit « Écoute, bon, si tu t'amuses, je peux te faire le scanner. » Il lui dit « Écoute, je fais ton scanner, il est parfaitement normal, tu peux rentrer à Ajaccio, pas de problème. » Mais la secrétaire tape, effectivement, le compte-rendu pour le médecin était un... Et il y avait marqué « Ébauche d'atrophie cérébrale, plie un peu. » Et donc, la secrétaire envoie, comme naturellement à tout malade, le compte-rendu. Et le corps arrive et voit qu'il avait un début d'atrophie cérébrale. Ça a été une destruction terrifiante de sa vie, parce que la machine avait dit qu'il avait un cerveau atrophique. Et pourtant, il n'y a pas de rapport entre l'atrophie cérébrale, je ne dirais pas massive, mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas fait des screenings à 70 ou 80 ans, peut-être que l'ensemble de l'humanité a un début d'atrophie cérébrale à cet âge-là. Et cette vision d'être le mot atrophie, le cerveau atrophique, comment quelqu'un peut vivre avec la notion d'atrophie cérébrale? Et donc, on voit très bien que cette anxiété qui va peu à peu surgir en fonction d'une médecine qui est... Là encore, ce n'est pas une critique de la médecine. C'est ce que je mets en cause, peut-être, c'est le non-discernement dans l'utilisation. C'est la prise de pouvoir par autre chose que cette écoute et que ce corps. Et donc, on voit très bien que les grossesses... Oh, on peut en parler pendant des heures, je ne suis pas gynécologue, mais je suis assez impressionné de voir comment l'inquiétude des grossesses... Et nous allons rendre, dans quelques semaines, un avis sur le dépistage généralisé qui est demandé de la mucoviscidose chez les femmes enceintes. On sait que la trisomie 21 fait partie maintenant de la quasiment obligation pour une femme vers la 14e semaine de se soumettre à un test. Alors, c'est très simple, 750 000 femmes enceintes, bébés qui vont naître chaque année, et il y en a environ 60 000 qui vont avoir une panique à la 14e semaine, leur enfant trisomique. Et leur enfant trisomique, elles vont subir un geste, une ponction chorioallantoïdienne. Et cette ponction, dans 1% des cas, va d'ailleurs aboutir à l'évacuation d'un enfant parfaitement, disons, normal, entre guillemets. Donc il y aura plus d'enfants normaux évacués par cette technique que des enfants trisomiques dont la naissance va être empêchée. Le problème, ce n'est pas de critiquer la médecine fœtale, la médecine qui fait des progrès. Le problème, c'est son côté automatique, son côté santé publique. La trisomie fait partie maintenant, par son éradication, d'un problème de santé publique. Et là, ça pose un problème éthique. Et je pense que la façon dont la mucoviscidose... C'est vrai que la mucoviscidose, c'est un problème, c'est un problème pénible, dur pour les enfants et les familles. Et passer de cette espèce de volonté d'éradication médicale de la mucoviscidose en pensant que... Bon, c'est vrai qu'il y a 200 enfants qui naissent et que si on en avait moins, ça serait encore mieux. Mais quelle inquiétude ! La médecine, comment voulez-vous que la société comprennent ce que c'est qu'un statut qui est porteur d'un trait hétérozygote. Qu'est-ce que ça veut dire un double hétérozygosie? Qu'est-ce que cela veut dire une mutation? Il y a 1500 mutations pour la mucoviscidose. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on peut être non porteur et mettre au monde un enfant atteint de mucoviscidose? C'est tellement complexe. Mais alors, chaque femme enceinte va devenir une généticienne en puissance en tapant sur Internet, et comme Internet adore angoisser tout le monde, on peut imaginer qu'il va y avoir une inquiétude assez impressionnante. Au fond, ce qui me paraît inquiétant, c'est qu'on passe notre temps à chercher une expertise du normal. Le normal, ça n'existait pas, je ne suis pas le premier à le dire. Qu'au lieu de s'interroger sur le sens même d'une investigation, est-ce que vraiment ça va déboucher sur quelque chose qui a du sens ou pas, on va faire des examens. Je n'arrive pas, quand j'ai les staffs, et je pense que le doyen Morlin partagera mon sentiment, quelqu'un rentre pour une fièvre prolongée, et alors les sérologies virales sont négatives, et les PCR. Et je pense que les PCR qui coûtent chaque fois 150, 180 euros, et qui sont inutiles, sauf lorsqu'elles ont été réfléchies, elles vont être fondamentales dans une méningite pour savoir si tel ou tel virus. Mais les sérologies virales, les PCR négatives avec un bilan qui va coûter 500 ou 1000 euros, qui n'apportera absolument rien, n'est jamais critiqué dans les universités. Au fond, les facultés manquent peut-être leur devoir, qui serait de réfléchir plutôt que d'accumuler. Et je me dis quelquefois qu'il y a peut-être une certaine parenthèse entre les PCR contemporaines et le latin du Molière qui, au fond, à partir du moment où un médecin a utilisé le mot PCR comme s'il parlait un langage qui le mettait à l'abri de toute critique, alors que la PCR, elle peut être le plus meilleur des examens, elle peut sauver une vie humaine. Et en même temps, on n'a pas le droit de les mépriser, de les utiliser comme une sorte de prestige. Et alors, je suis frappé de voir que, au fond, tous les problèmes de santé, l'alcoolisme, par exemple, en France. Alors, je suis prudent à Bordeaux, mais parce que Bordeaux n'est pas la ville de l'alcoolisme, mais c'est la ville, effectivement, peut-être du meilleur vin français, enfin, pas peut-être, du meilleur vin français, et en même temps, la timidité française de voir aborder l'aide à l'alcoolique. Je suis très frappé de voir que c'est une indifférence totale. Parce qu'il n'y a pas de marqueur. L'alcoolique, il a les gamma GT, mais les gamma GT, ça n'a aucun sens, puisqu'il y a des tas de gens normaux qui ont des gamma GT élevés. Et donc, l'alcoolisme, il reste dans les nimbes, il reste dans l'abandon. Le jour où il y aura un marqueur PCR de l'alcool, alors immédiatement, la médecine interviendra sur l'alcoolique, et je pense que ça sera peut-être une bonne chose, mais peut-être un petit peu tard ou coûteux. Donc, au fond, cette obsession de vouloir lancer le filet à tous azimuts et de ramener sous prétexte que on a lancé le filet, on va ramener peut-être un sélacanthe dans la Loire, et on s'aperçoit que on fait ça dans une désinvolture financière totale, alors que les hôpitaux universitaires, et si je plaide, c'est que je suis incapable dans mon propre service d'inverser les choses, montrant ainsi que au fond la force même de la proposition fait que celui qui va toujours chercher le dernier examen se dira « mais peut-être, je vais voir ». Alors que la médecine devrait être extrêmement angoissée de se dire « je mobilise tant de ressources », Et si je vois, il ne faut pas... Un examen négatif peut être la chose la plus utile au monde, mais je veux voir, il faut qu'après cet examen, j'en tire des conséquences pour le futur. Au lieu de dire à quelqu'un qu'il est porteur d'un antigène HLA-B27, sans lui expliquer qu'il pourra vivre, il n'est pas malade parce qu'il a cet antigène HLA-B27. C'est un peu spécialisé, mais je prends cet exemple parce que la médecine est très peu informative. Elle laisse les malades, quelquefois, ou les gens en parfaite santé, avec des renseignements qui sont un peu inutiles. Je parlais hier après-midi avec une femme qui est dans l'hôpital à la Riboisière, absolument fascinée par le gène de la mort subite, et ça l'excitait. Et elle dit, mais nous faisons des enquêtes familiales et on draine tout le monde. Et elle avait la volupté du gène de la mort subite en disant, mais effectivement, alors je dis, mais ça va déboucher à quoi? Alors elle dit, on va mettre des bêta-bloquants, et oui, peut-être des bêta-bloquants, mais on n'est pas certain que ça va éviter la mort subite, et les défibrillateurs portables, mettre à 20 ans un défibrillateur portable sous prétexte qu'il est porteur du gène. Au fond, cette absence d'interrogation en amont, à quoi ça sert de faire ce dépistage généralisé de la mort subite, qui est quand même pas la maladie, et qu'est-ce que ça veut dire à un être humain qu'il est exposé à la mort subite à 20 ans, à 80, on n'en sait rien. Mais la médecine a dit, j'ai fait mon travail, il y a un gène, il y a des kits bientôt, parce que les kits... Le ministère de la Santé nous a posé la question il y a à peu près un mois, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons proposition d'une trentaine de kits génétiques, VIH, VHC, VHB, et est-ce qu'il faut les mettre dans la population, dans les pharmacies, comme les tests de grossesse? Avec l'ambiguïté du ministre, si j'étais ministre de la Santé, je serais extrêmement embarrassé. Parce que si je dis non, on dira obscurantiste, la médecine ne veut pas avancer, au nom de quoi? Les gens ne pourraient pas savoir s'ils sont porteurs d'une infection VHC, VIH, mononucléose infectieuse, ou non, quels sont les obstacles? Et en même temps, si je le fais, si je dis oui, alors il faut que ce soit remboursé, parce qu'il y aura les gens riches qui pourront se dépister, les gens pauvres. Donc on voit très bien qu'on n'est même plus dans un problème de marché. Le médecin devrait être plus que jamais celui qui garde une vision critique et pas être en bout de chaîne, celui qui dit... Vous voulez une échographie, un scanner, un PET scan, un PSA? Eh bien oui, je vous signe les ordonnances. Combien en voulez-vous? Et revenez me voir dans 8 jours. Comme ça, j'aurai la preuve que vous l'avez, qu'il est négatif ou qu'il est positif. Je crains que cette vision angoissée du médecin, qui se dit quelqu'un arrive avec le ventre ballonné, et tous les ballonnements depuis Hippocrate n'ont pas eu accès à la moindre thérapeutique, mais le ballonnement, avoir le ventre gonflé, ce moment désagréable, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais pourquoi t'as pas fait une coloscopie ?» Et donc, automatiquement, quel va être le médecin qui va refuser une coloscopie à quelqu'un qui lui dit « Docteur, j'ai un ballonnement » et le médecin se dit « Au fond, j'ai pas envie de lui expliquer que c'est rien, que la médecine est impuissante. » Parce que c'est pas très facile pour un médecin de dire « Je suis impuissant de votre symptôme. » Au fond, il va lui dire « Faites une coloscopie, puis un scanner, et puis éventuellement une ordonnance. » Alors que peut-être le médecin devrait dire « La coloscopie, dans votre cas particulier, elle n'a aucune utilité. On peut faire la coloscopie aux gens qui passent dans la rue ce jour-là. Simplement, si on fait une coloscopie, c'est dans le cadre d'un dépistage. Alors, mais en tout cas, je ne profiterai pas de votre symptôme. C'est-à-dire avoir le courage de dire, au fond, de se faire respecter. Et je pense que le médecin n'est respecté que lorsqu'il dit quelquefois « Votre demande n'a pas de sens ». Et je peux le faire, parce que moi, vous savez, je ne suis pas tellement obsédé par la sécurité sociale. Je prends l'ordonnance et je peux écrire, faire coloscopie, un rendez-vous, anesthésiste général. Bon, c'est vrai que c'est possible. Je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que ce n'a pas de sens fait que le médecin retrouve sa fonction éternelle, c'est-à-dire celui qui va choisir, qui va discerner et qui n'est pas à la périphérie commandé par telle ou telle technique. Alors pour terminer, je crois qu'on est dans une situation paradoxale où la médecine crée des maladies. Elle crée des maladies si elle a une réponse thérapeutique. Moi, j'ai été assez sévère pour ma propre discipline. Quand on a commencé à identifier le syndrome de fatigue chronique et qu'on l'a lesté de PCR toutes plus coûteuses les unes que les autres qui sont venues s'accumuler pour apporter des vagues arguments non évalués, pour donner une authenticité à ce qui est toujours, au fond, cette patraquerie que des adolescents ou que des personnes peuvent avoir. pendant quelques mois ou quelques années. Comment la fibromyalgie va maintenant s'appuyer sur des IRM pour éventuellement écarter une myopathie très rare qui a été décrite par l'un ou par l'autre. Au fond, créer on l'a vu très très bien comment, c'était récemment, des syndromes, c'est les Anglais qui ont décrit le syndrome de dysfonction sexuelle féminine. Et médicaliser la sexualité à ce degré ne surgit qu'au moment où il y a une réponse thérapeutique qui est éventuellement à proposer. Peut-être alors, la question c'est, est-ce que ce n'est pas la santé qui finance la médecine ? Alors que la médecine devrait s'occuper des malades, on s'aperçoit que le champ thérapeutique, et on le voit avec les statines, le Lancet, il y a quelques jours, disait 40% des accidents vasculaires cérébraux sont diminués par la prise de statines. Nous sommes déjà le pays en Europe qui en prend le plus. Quel est le Français qui ne va pas prendre des statines en disant « j'ai 40% de chances de moins de faire un accident vasculaire cérébral » en oubliant d'interroger l'étude qui est faite sur très peu, quelques centaines de personnes, et qui va oublier que sur la population, l'amphithéâtre comme ça, le nombre de gens qui feront réellement un accident vasculaire cérébral sera très faible. Et ces 40% vont se situer dans la faiblesse. Quand on dit qu'on diminue de 40% le risque d'infarctus du myocarde, on fera passer un chiffre de 10 pour 1000 à 7 pour 1000. Et alors effectivement, ces 3 pour 1000, c'est 990 personnes vont financer, et ils vont financer la recherche. Et là, le problème, la grande ambiguïté contemporaine, c'est que s'il n'y avait pas, au fond, l'extension de la médecine à l'ensemble de la population, la recherche ne serait pas financée. Et c'est pour moi la source d'embarras, parce que si on donnait des statines uniquement à des gens qui en ont besoin, le progrès thérapeutique en matière de statines n'avancerait pas. Et alors, on voyait toujours qu'on est dans une situation d'embarras et qu'il est très difficile d'accuser telle ou telle attitude. Pour vraiment terminer, je crois que, au fond, à la fin de ma vie professionnelle, je retrouve les réflexes de mon maître Siguier, qui était en même temps un des maîtres de la médecine la plus scientifique, mais qui me disait toujours, écoute le malade, il disait mon lapin, toujours Césaire, écoute le malade, mon lapin, il te donne le diagnostic, il t'offre le diagnostic. Puisqu'on n'écoute plus et que le malade ne parle plus, on est obligé d'avoir sans arrêt des références extérieures. Et donc quand je pense que la mutité du corps contemporaine est seulement résolue par la science, il y a une certaine addiction de la population à une exigence d'un savoir scientifique et qui compromet naturellement l'approche du corps de l'autre. Parce que je crois que toute communication en matière médicale repose toujours sur un malentendu. Quand je commençais cette conférence, je disais, on dit à un malade qui a 600 CD4 et une charge virale négative, écoutez, vous allez bien, n'encombrez pas trop les rendez-vous, alors qu'il peut être en situation de détresse et de désespoir absolu, confronté à une maladie qui a quand même encore cette aura de mort. Le paradoxe, c'est que la science, pour se constituer, elle exclut naturellement le sujet. Alors, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais il est évident qu'il est très difficile de passer du soin à la science. Et si on veut faire de la science, on ne peut pas s'intéresser aux arrière-pays de chacun, aux inquiétudes de l'un ou de l'autre. Au fond, la recherche ne supporte pas les sujets. Quand on fait un protocole de recherche, il faut absolument... Je pensais, dans l'avion, j'aime beaucoup César, et le sculpteur César. Vous savez qu'il a pris des voitures et qu'il les a compactées. Et je pense que, quand nous faisons de la recherche, qu'on le veuille ou non, nous césarisons les personnes en fonction de leurs paramètres qui vont servir à telle ou telle recherche. Je crois que le consentement éclairé, et nous travaillons dessus, est de plus en plus une mystification. Une mystification parce que, si ce que je dis a une part d'existence, je crois qu'à ce moment-là, au fond, c'est la médecine qui va, en fonction de cette extériorité, demander un consentement à cette extériorité. Et effectivement, la personne va consentir à cette extériorité, mais elle ne va pas consentir, au fond, au rapport de son corps à la médecine. Et que, pour terminer, je me pose la question de la nouvelle hypocondrie contemporaine. Je ne suis pas psychiatre. Et je pense que l'hypocondrie contemporaine, elle est peut-être articulée sur deux volets. Ce que disent les journaux du corps, pour les femmes, exactement ce qu'elles doivent avoir comme canon, comme mensuration, comme oméga 3, c'est-à-dire que cette vision d'un corps performant, vaguement articulée à une médecine un peu escroc, quelque part, et puis de l'autre... Non, je ne pense à personne. Et puis l'autre, l'hypocondrie de ce que la médecine dit du corps. Alors, je suis très frappé de voir comment cette amplitude croît. J'avais dit, pour vraiment terminer, que je vous citerais cette phrase de Heidegger, parce que je crois qu'elle me paraît peut-être correspondre à ce que nous vivons actuellement. Dans question 3, 5 lignes. Un danger beaucoup plus grand qu'une troisième guerre mondiale menace les débuts de l'âge atomique. Dans la mesure où il a écrit ça en 1940, où la révolution technique qui monte vers nous pourrait tellement fasciner l'homme, l'éblouir et lui tourner la tête, l'envoûter, qu'un jour, la pensée calculante pourrait devenir la seule à être admise et à s'exercer. Alors, la plus étonnante et fécondante virtuosité du calcul qui invente et planifie s'accompagnerait d'indifférence envers la pensée méditante, c'est-à-dire d'une absence totale de pensée. Alors l'homme aurait nié et rejeté ce qu'il possède de plus propre, de plus précieux, à savoir qu'il est un être pensant. Et la question que je me pose, est-ce que la médecine est encore une médecine pensante ? Merci de votre attention.